Et maintenant, toujours au CIMODEC édition 2018 et lors des propos recueillis des élus, il a été beaucoup question de cobotique. Alors, qu'est-ce que la cobotique? Eh bien, je me suis dirigée vers le stand de la cobotique et je suis avec Frédéric Eulin, qui est directeur de cluster de l'agence TESAM.
De l'agence TESAM, c'est ça.
Alors, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors, directeur du cluster de l'agence TESAM. TESAM, qu'est-ce que c'est?
Alors, TESAM, c'est une agence d'innovation qui se trouve à Annecy et qui porte pour la région Auvergne-Rhône-Alpes le cluster Coboteam, qui est l'initiative de la région pour le développement de sa filière robotique.
Alors, filière robotique, on entend robotique, on entend cobotique. Alors, peut-être chronologiquement, robotique,
alors,
cobotique.
Alors, effectivement, Coboteam, on s'intéresse à toutes les formes de robotique. Et l'une de ces formes, c'est la cobotique, qui est la robotique de collaboration, donc qui fait collaborer l'homme et le robot.
Alors, aujourd'hui, vous êtes présent au CIMODEC. Est-ce la première fois et sur un salon de cette envergure?
Alors, on intervient sur quantité de salons, mais avec un espace comme ça, cobotique, aussi complet, avec une grande variété de cobots, c'est l'une des premières fois, effectivement, et c'est même une manifestation importante en Europe en termes de cobotique.
Alors justement, cet espace, il est important. Je vais vous laisser décrire, parce que j'en suis bien incapable. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui comme appareil?
Alors, il y a différentes formes de cobots ici sur le salon. Il y a des cobots industriels, il y a des cobots qui sont très faciles à mettre en œuvre dans l'industrie, parce que c'est tout l'intérêt du cobot, ça. C'est de faire en sorte que même les plus petites industries, les industries notamment de sous-traitance de notre région, puissent accéder aux robots, puissent automatiser un certain nombre de choses. Et ça, c'est absolument indispensable. Pourquoi? C'est pas tant pour ce qu'on a pu entendre parfois remplacer l'homme par la machine. Tous les industriels avec qui on peut discuter, ça a été votre cas je pense encore sur le salon aujourd'hui, nous disent non, nous ce qu'on veut c'est maintenir l'emploi dans nos ateliers, voire croître en termes d'effectifs, mais pour ça il faut rendre le poste de travail plus intéressant pour les personnes, pour convaincre les jeunes de revenir dans l'atelier et puis surtout pour pouvoir les garder parce qu'ils forment des jeunes. Ces jeunes ont tendance parfois à partir et c'est ce qu'ils veulent eux, c'est pour voir monter en compétence et faire monter en compétence leurs jeunes.
Alors il est vrai que quand on va... Un des termes que vous venez d'employer par rapport aux salariés... Vous n'avez pas employé ce terme-là, mais c'est... On va prendre les différents points que vous avez énoncés, parce que vous en avez énoncé beaucoup à la suite. Alors, dans une entreprise, c'est vrai qu'on a, on a quand même l'idée des gens qui font des gestes répétitifs et des tâches fastidieuses. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer entre le robot... Et le cobot?
Ah, c'est typiquement les tâches fastidieuses, c'est typiquement le cahier des charges des cobots. Pourquoi? Parce que les personnes dans l'entreprise souvent se blessent en faisant des tâches fastidieuses qui sont des tâches secondaires par rapport à ce pourquoi elles ont été embauchées et par rapport à leur expertise. L'intérêt du cobot, c'est tout l'intérêt justement de ces machines, c'est de prendre en charge les tâches secondaires à faible valeur ajoutée pour l'humain pour pouvoir le décharger, pour faire en sorte qu'il puisse se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée qui sont très très fortement valorisables et seul l'homme peut faire ces tâches.
Alors, par exemple, on va prendre un geste répétitif. La personne, on voit, ça fait peut-être une vieille image, et je prends un écrou et je le mets à cet endroit, j'en prends un autre et je fais ça toute la journée. On sait bien que la personne finira par avoir très vite des tendinites ou autre, et en fait, sa tâche est quand même fastidieuse. Alors, cette personne, est-ce que vous allez la remplacer par un robot, lui dire au revoir ou un cobot, ou qu'est-ce qui va se passer?
Alors là, par exemple, il y a une application qui est présentée sur l'espace en ce moment, qui est une application de chargement de machines. Cette application, par exemple, avant l'arrivée du cobot, l'opérateur devait charger les machines toutes les minutes et les décharger toutes les minutes avec un geste extrêmement répétitif, toujours le même. Donc en termes de troubles musculo-squelettiques, en termes de tendinite, effectivement, il n'y a rien de mieux pour attraper ce genre de pathologie. Donc l'idée de mettre un cobot, ça a permis à la personne de... toujours être dans l'entreprise, toujours faire le réglage de la machine, toujours mettre en place le poste de travail, laisser le cobot charger et décharger la machine, et pour l'instant, la personne peut se concentrer sur des tâches intellectuellement plus intéressantes, beaucoup plus valorisables, de réglage des machines qui sont à côté, pour maintenir la productivité, maintenir aussi la productivité de la personne sur son poste de travail pour pas qu'elle se blesse, et pour continuer à faire en sorte que l'entreprise puisse croître et soit compétitive.
Alors, justement, la personne, on va prendre toujours cette personne qui faisait toujours le même geste, aujourd'hui, l'entreprise va se munir d'un cobot, alors cette personne-là, on va lui proposer une formation Parce qu'on ne va pas la licencier.
Non.
C'est pas licencier, c'est former.
Ah ben, non seulement on ne va pas la licencier, elle sera sûrement formée à ce nouvel outil qui est le Kobo, qui est justement tout l'intérêt du Kobo, c'est qu'il y a des interactions, il y a des interfaces qui sont beaucoup plus facilement utilisables pour pouvoir le programmer facilement. Et ensuite, on va pouvoir justement utiliser la personne souvent ce pour quoi elle a été embauchée, c'est-à-dire pour son geste précis du métier, son geste de l'art, et en évitant que cette personne se blesse, j'allais dire, sur des tâches secondaires qui justement auront été prises en charge par ce Kobo qui devient le nouvel outil, le nouvel assistant de cette personne pour vraiment les tâches à faible valeur ajoutée. Du point de vue de cette personne qui est un professionnel qui a une connaissance, une compétence à très haute valeur ajoutée sur des gestes précis qui ne sont pas remplacés là par le robot.
Alors par exemple, on a une machine là, vous allez nous la décrire. Alors quel est son objectif, de quoi elle part, à quoi elle doit arriver, enfin, quel est son but, et avant qui faisait quoi, et qu'est-ce que ça fait évoluer au sein de l'entreprise?
Alors la machine qui est présentée ici, c'est la machine de Stobli, hein, qui est l'un des adhérents de Kobotim, qui est de fer de lance de la robotique ici en région, en France, en Europe et même dans le monde, parce que les robots Stobli sont connus partout dans le monde pour leur précision et leur qualité. Ce que nous présente la Stobli sur sa cellule, ce que vous voyez, alors pour vos auditeurs, pour comprendre, hein, on a un bras manipulateur qui manipule des boîtes, etc., avec tout un ensemble de capteurs autour de la cellule. L'intérêt, en fait, de ce qui est présenté là, c'est que on peut s'approcher, là on s'approche, et à mesure que je m'approche de la cellule, le robot ralentit. Jusqu'au moment où quand je fais pénétrer ma main dans la cellule, le robot s'arrête et je peux manipuler les pièces que le robot était en train de manipuler.
Alors,
pour vérifier si les choses ont bien été faites, etc.
Qu'est-ce qu'il doit faire le robot intelligent Stobli?
Alors le robot intelligent Stobli, ce qu'il fait là, c'est qu'il s'arrête parce qu'il a détecté ma présence, ce qui n'était pas le cas sur les anciennes cellules robotiques. Je peux travailler, je peux vérifier son travail, je peux ajouter des pièces, enlever des pièces, vérifier s'il n'y a pas eu de poussière, etc. Et ensuite, en toute sécurité. Là, je me retire. Vous voyez, à mesure que je me retire, le robot reprend son fonctionnement.
Alors, je vais décrire mieux, parce que moi, je connais vraiment pas du tout ce domaine. Alors, on va dire qu'il y aurait un grand tube à la base, avec un autre tube articulé qui permet. C'est un bras, voilà. Et avec un avant-bras qui va chercher un bout de bois qu'il va mettre dans une boîte. Plus, ils vont mettre 1, 2, 3 fois, 9 morceaux de bois dans cette boîte. Après, ça va fermer cette boîte.
C'est ça.
Et ensuite, ça repart. Et vous, de temps en temps, vous pouvez venir vérifier. Avant, pour vérifier, est-ce qu'on vérifiait chaque boîte, par exemple, ou est-ce qu'il fallait arrêter la chaîne?
Alors, dans l'industrie, de temps en temps, on a besoin de faire des échantillonnages. C'est-à-dire qu'on a besoin de vérifier, prélever sur la chaîne de production un produit ou un produit en cours de montage pour vérifier si tout se passe bien. Tout se passe bien. Regardez, je vais le faire. Le robot vient de s'arrêter.
Alors au départ, on est sur une estrade. On est environ à 1 mètre.
À 1 mètre.
Voilà.
Alors si vous êtes à 1 mètre, alors là, il y a une personne qui est proche de la cellule. Mais regardez, quand tout le monde sera éloigné.
Il y a une première bande verte.
Une première bande verte.
Si on franchit cette première bande verte.
Avant de franchir la bande verte, le robot était à pleine vitesse quand la bande verte était...
Ah oui.
Ça veut dire que le robot a détecté qu'il n'y avait personne, tout le monde était éloigné de la cellule, donc il peut tourner à plein régime. Regardez à quelle vitesse il manipule les boîtes et il les remplit.
Donc on est bien dans la collaboration robot et personne.
Alors là, la collaboration, à la limite, il se débrouille, là, le robot. On n'est pas encore dans la collaboration. On va y aller dans la collaboration. On s'approche.
On passe à la ligne verte.
On passe à une verte. Une ligne orange s'allume. Et là, le robot a ralenti parce qu'il a détecté qu'on était beaucoup plus proche de lui. Il continue à travailler, mais... ça permet de prévenir tout risque. Il a ralenti sa vitesse. Et on s'approche encore, et regardez bien.
Ligne rouge qui s'allume, et là...
Et on pénètre ici, regardez, il y a toute une bande de capteurs. Alors bon, l'opérateur, ses capteurs, tout ça, c'est plutôt l'affaire du robot. Hein. Il rentre, et le robot s'est arrêté. Et regardez, là, je peux prélever une des boîtes que vous avez décrite tout à l'heure. Et je peux vérifier, je fais, tiens, mais elle est bien vide, il n'y aura pas de problème, tout va bien. La chaîne fonctionne parfaitement. Je remets cette boîte sur la chaîne. Je me retire, regardez, à partir du moment où je me suis retiré, le robot a continué. Regardez, hop. Je peux les vérifier, bon, très bien.
D'accord.
La boîte est bien fixée.
Alors,
et on repart.
D'accord, on repart, on remet le robot à sa pleine vitesse. Alors concrètement, il y a ces petits morceaux de bois, il y a ces boîtes avec leur couvercle. Le robot, il prend boîte vide après boîte vide,
c'est ça.
Il remplit de petits bouts de bois, et quand on va à la sortie, il a refermé la boîte, et normalement, dans la boîte, il y a ces bouts de bois qui sont bien empilés. Autrefois, comment ça se serait passé?
Ben, autrefois, ces applications, je veux dire, itératives faites par des automates, elles se seraient passées à peu près de la même manière, hein, sauf qu'il n'aurait pas été possible de s'approcher. il n'aurait pas été possible de très facilement vérifier. Il aurait fallu taper sur des écrans, appuyer sur des boutons d'arrêt, s'approcher, ouvrir la cage où se trouve le robot, vérifier que le robot est dans une position qui nous permet d'accéder, vérifier, etc., ressortir, appuyer sur des boutons, remettre en marche des sécurités, etc. Donc ça aurait pris un temps fou. Vous avez vu, vous qui ne connaissez pas la robotique, en combien de temps on a pu vérifier cette boîte? Peut-être 10 secondes. Ça nous aurait peut-être pris 1 minute, 2 minutes, 5 minutes à l'époque. Ce qui fait qu'on aurait beaucoup moins vérifié et donc peut-être que la qualité de la production n'aurait pas tiré.
Donc au micro de Radio Gifre, je suis toujours avec Frédéric Eulin, directeur du cluster agence TESAM, dans le cadre du CIMODEC, pour une première présence de cet espace cobotique. Tout le monde parle de cet espace cobotique.
Heureusement.
Donc, alors, ces machines, qui les crée, qui les invente, qui les pense?
Alors, ceux qui les créent, en fait, il y a tout un ensemble d'acteurs qui créent ces machines. Il y a bien sûr les gros roboticiens, on a vu Stobli, mais ils les font aussi en mode collaboratif avec des centres de recherche, avec des intégrateurs, parce que cette cobotique intègre de nouvelles technologies, notamment des technologies de vision, des technologies de prise de décision automatique, voire d'intelligence artificielle. Et donc, c'est des machines extrêmement complexes. Et pour intégrer l'ensemble de ces technologies, on met en place des projets collaboratifs qui permettent de sortir de nouveaux produits et de nouveaux services associés à ces produits.
Alors donc, on a dit que ça ne remplacerait pas l'homme, au contraire, hein, ça c'est aussi le protéger dans son intégrité physique, et puis je pense morale et psychologique hein, aussi, avec des gestes moins répétitifs.
C'est ça.
Et puis élever aussi le degré d'intérêt du travail en lui-même.
C'est ça, c'est ce que nous disent les industriels.
Et donc aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu de la cobotique dans le monde, dans la France et en région Auvergne-Rhône-Alpes?
Bah, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région industriellement très riche, c'est la première région industrielle de France, hein, et notamment première région de sous-traitance. Donc l'enjeu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, si finalement on arrive à mettre en place de très bonnes solutions pour notre industrie Auvergne-Rhône-Alpes, on peut imaginer que ces solutions les exportera ensuite. Hein. Elles seront tout à fait valides ailleurs, sur d'autres territoires, en France, en Europe et dans le monde. Donc l'intérêt de la cobotique, pour nous, c'est l'intérêt de notre industrie locale en premier lieu. Et cette industrie locale, qu'est-ce qu'elle nous demande? Et bien justement, c'est un tissu industriel qui est morcelé. Ce sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément la possibilité toutes d'intégrer du robot classique. Elles aimeraient un robot, mais pas forcément, elles n'ont pas forcément les moyens de se payer un roboticien. Donc elles veulent un robot, mais qui se reprogramme très très facilement ou qu'on puisse utiliser très facilement. Et pour ça, elles sont tout à fait prêtes à investir dans le Kobo qui est le robot collaboratif qu'on peut reprogrammer facilement. Pourquoi? Parce qu'elles traitent souvent, pour leur grand honneur d'ordre, des toutes petites séries, hein, et on leur demande de changer de série tout le temps. Et pour ça, s'il fallait à chaque fois reprogrammer complètement le robot, en racheter un nouveau, elles ne pourraient pas. D'ailleurs, beaucoup ne le font pas encore. Avec le Kobo, il sera possible d'automatiser une certaine partie de la production, et donc avec tous les avantages qu'on a décrits là, pour les personnes, pour le confort au travail, pour l'intérêt au travail, tout en gardant les mêmes machines, en les reprogrammant très facilement. Donc il faut une robotique agile. Cette robotique agile, c'est la cobotique.
Et donc la cobotique contribuera à la compétitivité de nos entreprises sur un plan international?
Ah mais non seulement elle contribuera, mais c'est nécessaire.
Donc aujourd'hui, vous formez, est-ce qu'il y a des écoles de formation pour la cobotique?
Alors la cobotique, comme je vous l'ai dit, et un peu comme la robotique, c'est l'intégration de beaucoup de technologies. Donc notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, on a de très bonnes écoles, évidemment, hein, Centrale, l'INSA, CPE, on a des centres de recherche comme l'INRIA, l'Institut Pascal en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a des compétences en forme de la matière grise pour la robotique, pour la cobotique, et notamment pour toutes ces parties d'interaction forte, de prise de décision, d'IA qui sont nécessaires pour fabriquer de très belles applications cobotiques pour nos industriels. Donc oui, effectivement, il y a des écoles, on en a beaucoup, on est riche de ce savoir-faire en termes de formation sur notre territoire régional.
Donc la cobotique pourrait contribuer aussi à garder nos matières grises?
Ah bah oui, bien sûr.
Parce que clairement, c'est quand même compliqué.
Clairement,
aujourd'hui.
Clairement. Bien sûr.
Donc un dernier mot donc, sur cette cobotique présente au CIMODEC que dans le cadre du décolletage plus spécifiquement?
Alors décolletage pourquoi? Parce que c'est le décolletage, c'est une industrie qui a rapidement robotisé tout un ensemble de tâches qui étaient répétitives. Mais de plus en plus, on leur demande des petites séries. Donc eux aussi ont intérêt à utiliser le Kobo bien sûr.
Bon voilà, la promotion du Kobo a été assurée au sein du CIMODEC par le Kobo Team.
C'est
avec
ça.
Frédéric Eulin. Merci beaucoup.
Merci.